Les voies de service, mercredi, le 22 août 2018. Bonjour tout le monde, ici Daniel Lachance au micro de Canal M qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Les voies de service en l'absence de notre collègue Isabelle Falardeau aujourd'hui. Alors bonjour Serge.
Bonjour Daniel.
Vous allez bien?
Très 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 bien, vous-même?
Et bonjour Maurice Bolduc à la mise en onde.
Allô Maurice.
Bonjour.
Bonjour tout le monde. Ben tout le monde est là, on peut pas dire qu'on représente vraiment la parité.
Non.
L'égalité des sexes aujourd'hui.
Mais ce n'est pas nous qui avons décidé
non,
ça.
Non, nous on voilà. Est fidèles au poste. Nous sommes tous là. Donc, Serge, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Les sorcières.
Ah, par là-bas, oui. Voilà.
On est... Les sorcières.
On est juste des gars, on va parler de sorcières.
Ah, oh, voyons.
On va parler dans leur dos.
C'est pas gentil, ça. Voyons, les sorcières. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. On a...
Ben, elles sont très bien cachées. S'il y en a,
ouais,
je sais
c'est
pas.
Ça, ouais. Peut-être dans les cultures encore un peu primaires.
Mm-hmm.
Il y a peut-être encore il y a des sorciers dans certaines tribus, peut-être en Afrique, tout ça.
Dans certains villages.
Alors, c'est ça, les sorcières. Et également, Little Rock, 1957. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Le nom dit quelque chose,
ouais.
Mais je ne sais pas à
je
quoi
vous parler
ça fait.
De ça. Oui, oui. Et ensuite, j'ai quelque chose sur les sous-marins.
Des sous-marins comme,
oui.
Comme des sandwichs, là? Ou
non? Oui, non. Non, le premier sous-marin a été présenté à Napoléon Bonaparte.
Oh, ça date quand même.
Petit peu avant aussi, avant la Révolution. Et puis après ça, il y a un sous-marin qui a coulé en 1958 en France. Et le Minerve qui a disparu et qu'on, je pense qu'on n'a jamais retrouvé. Non, jamais. Alors, ce sont les sujets. Plus des. Comme on n'est que deux, ben peut-être des petites. Bref, je vais entrer, je trouvais quelque chose. Précieux gâteau de mariage.
Ah. On verra ça tantôt.
En partant du. On est parti du gâteau de mariage du prince Harry et de Meghan.
OK. Oui.
Et là, on parle des gâteaux de mariage, de la royauté.
Ça ne devait pas être un May West, je suppose.
Non.
Et moi, de mon côté, je vais vous parler de deux anniversaires importants qui ont lieu cette année.
Mm-hmm.
Et en première partie, je vais vous parler d'un 50e anniversaire et en deuxième partie, un 45e anniversaire. Mais je vous dirai de quoi il s'agit tantôt. Alors, si vous voulez commencer, ce serait quoi votre premier sujet?
La sorcière.
Bon, OK, voilà.
Alors, c'est un article qui était dans la revue Historia de... C'est une vieille revue, mais c'est toujours à point l'information.
Ah, des sorcières, on a dit tantôt, c'est vieux parce que ça n'existe plus.
C'était Larousse qui faisait ça, l'histoire du monde.
OK.
En 1993. Alors, ça s'intitule « Le diable, la sorcière et le juge ». De la Renaissance aux Lumières, dans de nombreux territoires d'Europe, des dizaines de milliers de personnes sont jugées et condamnées pour crimes de sorcellerie et cultes rendus au diable. C'est entre 1580 et 1640 que se situe le paroxysme du temps débuché. La géographie de la sorcellerie recouvre les pays du Nord, comme le Danemark, la Suède, mais aussi la Lorraine, le Saint-Empire germanique, l'Allemagne actuelle,
d'aujourd'hui.
En particulier la Saxe, Bavière, Brandebourg, ensuite la Suisse, l'Angleterre, les Pays-Bas et la France. L'Espagne et l'Italie sont, semble-t-il, moins touchées. Alors qu'on aurait pensé qu'à cause de la religion, il serait peut-être plus, mais non. Sauf pour cette dernière, pour l'Italie, parce que la région septentrionale et montagneuse de Côme était propice à ça. Couronnant la pyramide des délits et des peines, la sorcellerie est le crime de lèse-majesté humaine et divine. C'est assez pompeux, hein? Lèse-majesté humaine et divine. Donc, c'est le pire des crimes. Il conduit donc à la torture, puis au feu, ceux qui sont accusés d'avoir transgressé toutes les règles, d'avoir subverti l'ordre des puissances de la terre et du ciel. Dans les procès de sorcellerie, la participation au sabbat est l'élément fondamental de l'accusation et suffit à prouver la culpabilité. En libérant les forces obscures et maléfiques, le sabbat permet en effet le déchaînement de puissances, de destruction et de mort dont les possédés sont investis par le démon, qui est leur nouveau maître.
Le sabbat, c'est comme un genre de culte.
Ouais. Mais pour extirper l'hérésie démoniaque, les enquêteurs cherchent surtout à connaître tous les complices des sorciers. L'usage de la torture, appelé la question, permet d'obtenir des aveux, puis des dénonciations. Entre parenthèses, là, qui n'avouera pas sur la contrainte de la torture?
Hein? Je ne sais rien, mais je dirai tout.
Ben, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu j'ai vu souvent des documentaires là, sur les canaux comme Historia ou TV5. Sur la torture, là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui...
Non, on ne peut pas résister.
Non. Dans certains cas, l'accusé peut être gracié en échange de sa coopération. Ainsi, en 1606, à Riom, en Auvergne, Madeleine des Aymard, une jeune servante de 15 ans, convaincue de sorcellerie, remplace le pacte avec le diable par un pacte avec le juge. Je vous lirai tout à l'heure le pacte avec le diable, ce que c'est.
Ça doit s'assembler pas mal.
Oui. Et pour cette raison, les procès en sorcellerie déclenchent souvent une cascade de condamnations bien au-delà du noyau initial des accusés. Les campagnes sont le terrain privilégié de la chasse aux sorcières.
Ah.
Plus que les villes, oui.
Curieusement.
Les bourgs et même les villages les plus reculés n'échappent pas aux enquêtes et aux procès. La répression de l'hérésie démoniaque devient ainsi un instrument privilégié de l'affirmation de l'autorité centrale du roi ou des relayé par les pouvoirs des échevins, les juges locaux à l'époque, des curés et des notables. Traité comme un bouc émissaire, la sorcière rurale est en quelque sorte l'antithèse du juge qui la condamne. Femme et paysanne, elle est doublement suspecte. Son interrogatoire, son jugement et son exécution spectaculaire visent à détruire l'ordre et la cohésion propres au monde villageois, toujours suspect de paganisme ou d'insoumission. Les superstitions ont toujours été plus fortes dans les campagnes et ça a été très très long avant de...
Curieusement.
Même encore aujourd'hui dans certains endroits de la planète.
Mais curieusement parce qu'en même temps, j'imagine que le culte religieux était plus fort aussi dans les campagnes que dans les villes.
Toujours. Le procès et la mise à mort publique de la sorcière ont aussi pour fonction de conduire vers les sentiers du bien, comme disent alors les magistrats et les prêtres, ceux qui se sentent culpabilisés de vivre à côté de tels suppôts de Satan.
OK, c'est pour les rassurer un peu.
Oui. La chasse aux sorcières contribue ainsi à renforcer un consensus social tourné vers l'obéissance au seul maître possible, le roi, qui détient son pouvoir divin, qui est l'image de Dieu sur la terre. À travers les femmes condamnées, c'est l'ensemble du monde rural qui est mis en accusation, parce qu'il représente des marges encore à conquérir, à discipliner et à moraliser. Le pacte avec le diable, vous seriez intéressé à l'entendre?
Ben oui, c'est quoi exactement?
Je vais le lire lentement.
Signé par le sang.
Oui, ouais. Je vais le lire lentement. Donc, Maurice, c'est vous, si vous voulez l'écrire.
Si je veux que vous le compreniez.
Je vais vous enregistrer.
Oui, c'est bon. Oui, moi aussi, je vais le réécouter.
Oh, OK.
Balado-diffusion.
Alors, la sorcière qui se livre à Satan a choisi son camp et fait à son maître une étonnante profession de foi. Je commence.
Son maître étant Satan.
Satan. « Je promets à vous, Belzébuth, que je vous servirai, en vieux français, toute ma vie, et vous donne mon cœur et mon âme, toutes les facultés de mon âme, tous les sens de mon corps, toutes mes œuvres, tous mes désirs et soupirs, toutes les affections de mon cœur, toutes mes oraisons et mes pensées. Je vous donne toutes les parties de mon corps, toutes les gouttes de mon sang, tous mes nerfs, tous mes ossements, et toutes mes veines, et tout ce qui est dans mon corps, et ce que créature pourroit offrir. » Et là, c'était fin de la...
Signé.
Et c'était en confirmation de quoi j'ai écrit et signé la présente de mon propre sang.
Ah, voilà. Je me souviens de la signature avec le sang, mais le texte au complet. Donc...
C'est assez.
Je ne pourrais pas vous le répéter.
Je comprends l'idée, là.
On donne tout, finalement.
Oui. Ben là, je pense que... Je sais pas ce qu'elle pourrait donner de plus.
Mais en échange de quoi? En échange des pouvoirs magiques,
pouvoir,
quelque chose comme
éternel.
Ça?
Oui.
Parce qu'on mélange les histoires de sorciers avec Harry Potter, tout ça. Ça prend des pouvoirs, sinon on n'est pas des vrais sorciers.
Et il y a un autre... Petit encart ici, l'évangile des quenouilles dont on a tous entendu parler. Maurice, non.
L'évangile
des quenouilles, non.
Non.
Alors, je vous lis ça. Ainsi, d'après l'évangile des quenouilles, un texte souvent réimprimé au 16e et 17e siècle. Bon, vous êtes pardonné, vous n'étiez pas né à l'époque.
Non, c'est ça. Puis un petit peu après.
Ouais. Quoique, vous n'étiez pas né à l'époque. Hein, les pies qui jacassent au-dessus d'une maison sont un signe indubitable de mauvaises nouvelles.
Non.
Ensuite, un chien qui hurle annonce des malheurs.
Hey boy.
S'il s'agit de loups, la peste est assurée et la guerre ou la famine ne sont pas loin. Par contre, le hennissement d'un cheval est un bon présage.
C'est plus rare dans mon coin. Ça, c'est...
Ben, les loups s'en reviennent à Montréal.
Les chiens, les coyotes, les chevaux qu'on entend pas beaucoup.
Même les rites et les objets de la vie religieuse sont susceptibles de porter bonheur ou de nuire. Par exemple, il est bénéfique de rencontrer un moine noir le matin. Mais, attention, mais dangereux. mais dangereux de croiser un moine blanc.
Ah.
On aurait pensé le contraire.
Ben oui, ben oui. Quelle sorte de racisme.
Et l'eau bénite de la messe du dimanche empêche le diable mauvais, ça c'était connu, d'approcher à moins de 7 pieds celui qui l'a reçu.
Ah, je connaissais pas les distances, hein, mais je savais que ça éloignait.
Protection d'autant plus précieuse qu'elle dure une semaine entière.
Ah, c'est pour ça qu'on va en mettre juste une fois par semaine.
Une fois par semaine, vous avez tout compris, tout compris.
Quand les effets de l'eau bénite se dissipent, il faut y retourner.
Alors voilà, on est bien renseigné sur les sorcières.
Oui. Donc, je vous ai dit qu'on parlait d'un anniversaire de 50 ans cette année. Et le titre de l'article qui est paru dans la presse du 16 août, c'est « Toujours aussi prestigieux après 50 ans ». Et savez-vous de quoi ou de qui il s'agit?
Absolument pas.
Absolument pas,
absolument
hein?
Pas.
Lui, il sait parce
50 ans.
Parce que j'ai dit tantôt.
Ah bon, c'est ça.
Il s'agit du Festival international de la chanson de Granby.
Ah, 50 ans?
50 ans déjà.
Oh,
et oui, et ça ne nous rajeunit pas, et je vous dirai pourquoi tantôt. Donc, l'article dit ceci. Le Festival international de la chanson de Granby est sans contredit le concours qui a propulsé le plus grand nombre d'artistes au Québec. Surprenant quand même. Hein? Mm-hmm. Malgré l'immense popularité d'émissions de télévision comme Star Academy et La Voix, ce concours est toujours resté aussi pertinent. Retour sur cet important rendez-vous musical dont la 50e édition s'ouvrait, on dit ici hier soir, mais bon, c'était la semaine dernière, donc ça ouvrait le 17 août. Mm-hmm. C'est le concours qui a le plus de prestige. C'est la grande totale, dit Damien Robitaille, qui fut finaliste du concours en 2004, à cause de sa longévité et aussi par ses concurrents. La liste des personnes qui sont passées par le festival est tellement impressionnante et le festival a su évoluer avec le temps et s'adapter à la nouvelle réalité de l'industrie. Depuis la fin des années 60, le concours du Festival international de la chanson de Granby, FICG, mm-hmm. il aurait pu dire aussi festival, en tout cas, mm-hmm. a permis à une multitude d'artistes de tous les genres de se faire découvrir par le public québécois. Que ce soit des interprètes ou des auteurs-compositeurs, la liste est bien longue et traverse 5 décennies. Marie-Denise Pelletier, Jean Leloup, Luc de la Rochelière, Linda Lemay, Nelson Mainville, Isabelle Boulay, Thérèse Montcalm, Dédé Fortin. Celui-là, ça, je ne savais pas ça, ça m'a surpris. Mm-hmm. Jean-François Brault, Dumas, Pierre Lapointe, Alexandre Desilets, Patrice Michaud, Lisa Leblanc, Safia Nolin, pour ne nommer que ceux-là. C'est sûr que si on nommait tout le monde des 50 ans, on
ben
aurait
pour
l'avant-midi. À un jeune qui veut faire carrière dans la chanson, Damien Robitaille conseillerait de participer à un concours comme celui de Granby. En fait, dit-il, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux être connu rapidement, va faire La Voix. Mais si tu veux vraiment travailler ton art et que tu as une démarche artistique, je crois que tu es mieux d'aller au Festival de Granby. En passant, je pense, je ne sais pas s'ils le disent, plus loin dans l'article, je ne me souviens pas, là. Ils parlent de cette façon-là parce qu'au Festival de la chanson, ce n'est pas seulement un concours, mais il y a plein d'ateliers mm-hmm. avec des artistes
ouais.
qui vont coacher. Mm-hmm. Donc,
c'est
quand même assez important. Éric mm-hmm. Louis Champagne du Festival de la chanson Granby confie que les concours de chant télévisés comme Star Academy et La Voix ont tout de même changé la donne au fil des années. Nous voyons un peu moins d'interprètes s'inscrire à notre concours. Il y a surtout des auteurs-compositeurs. Les interprètes ne sont pas exclus, mais peut-être qu'ils choisissent une avenue différente. Mais à part ça, ça n'a pas réduit la qualité des postulants, explique le directeur général adjoint. Depuis quelques années, il y a également les concours Petit Festival pour les enfants et Jamais trop tôt pour les adolescents. Donc ça, c'est des catégories qui n'existaient pas au début. Mm-hmm. Et pourquoi les futurs artistes de la chanson devraient-ils passer par un concours? Quand un concours offre l'occasion de recevoir tellement de formations, la question est surtout « Pourquoi ne pas en profiter? » répond Éric-Louis Champagne. Andréane A. Mallette adore le festival de sa ville natale. Elle a été finaliste au concours et, par la suite, elle en fut la porte-parole et membre du jury. Depuis 5 ans, elle est directrice artistique et metteur en scène du volet pour les adolescents. Je commence à recevoir des anciens participants du petit festival dans mon Jamais trop tôt et des participants de Jamais trop tôt commencent à participer au grand concours. C'est comme l'école, primaire, secondaire et université, on les voit évoluer. C'est vraiment pertinent comme environnement pour grandir en tant qu'artiste, dit l'auteur, compositrice, interprète qui a participé à Star Academy après son passage au concours de Granby. En plus de 3 concours de la chanson, l'événement est véritablement devenu un festival au cours de la dernière décennie en offrant des spectacles avec des artistes établis. Parmi ceux qui seront présentés au cours des prochains jours, il y a « Musique de notre monde » animée par Mélissa Lavergne. On espère que ça va devenir une tradition où chaque année, on va jumeler des parrains avec de nouveaux artistes. Le concept est d'associer des chanteurs bien connus comme Daniel Bélanger, Paul Piché, Hubert Lenoir et Martine Sinclair à des artistes nés à l'extérieur du pays et qui vivent au Québec. On veut donner aux gens des communautés culturelles le goût de chanter en français et de découvrir notre répertoire francophone. Et au public de Granby qui est habitué à la chanson francophone, on veut faire découvrir de nouveaux artistes, ajoute Mélissa Lavergne. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que ça a tellement changé depuis le temps. Parce que moi, je suis natif de Granby. Et j'étais à Granby dans les débuts, j'étais très jeune quand même, là, mais j'ai commencé à fréquenter le Festival de la chanson, que le format était très, très différent à l'époque. C'était un festival qui s'étalait sur toute la saison d'automne. Donc, ça commençait en septembre et c'était une fois tous les samedis soirs jusqu'à décembre. Chaque samedi soir, donc, il y avait 4 auteurs-compositeurs et 4 interprètes. Qui participaient au concours. Et donc, il y en avait un de chaque catégorie qui était choisi. Et après ça, il y avait les semi-finales, les finales, tout ça. Là, de la façon que je comprends, aujourd'hui, ça se passe en dedans d'à peu près une semaine, une dizaine de jours, je ne sais pas trop. Donc, c'est tout concentré. Mais à l'époque, c'était la sortie du week-end. On allait au Festival de la chanson. Après ça, on allait prendre un verre quelque part, puis on discutait de ça, puis on faisait nos paris, tout ça.
Seul verre? Dites la vérité, là.
Un grand verre. Ouais. Non, mais puis je me souviens à l'époque, ce qui était très différent aussi. Aujourd'hui, ben c'est comme la plupart de ces concours-là, télévisés ou n'importe quoi, t'as un band, un house band, les musiciens qui accompagnent tout le monde. Donc, je comprends que c'est plus juste de cette façon-là aussi parce que tout le monde a la même qualité d'accompagnement. À l'époque, chaque auteur, compositeur et chaque interprète amenait ses propres musiciens. C'était un petit peu plus compliqué, c'était un petit peu plus bordélique au niveau de la logistique, tout ça. Et ça, c'est mes bons souvenirs parce que j'ai participé, ben pas comme concurrent, mais j'ai accompagné plusieurs auteurs-compositeurs et interprètes à l'époque. Parce que c'était plus facile vu que je demeurais à Granby.
Mais par contre, si tous les artistes invités avaient à jouer avec le même band, je ne suis pas musicien, chanteur, mais avaient à jouer avec le même band, c'était pas un peu déstabilisant pour eux autres? Parce que quand tu es habitué à ton musicien... À ton groupe.
Oui, effectivement. Donc, c'est une autre façon de les juger aussi, si tu es capable vraiment de fonctionner avec une bande professionnelle.
De voir facilité d'adaptation.
Oui. Et voilà, donc, il reste un petit paragraphe. En ce qui concerne... pas nécessaire de le lire, je vais le lire quand même.
on a le temps.
Parce qu'il y a eu une petite nouvelle qui est sortie aussi. En ce qui concerne la suspension du directeur général du Festival de la chanson Granby, Pierre Fortier, pour des comportements et commentaires inadéquats en milieu de travail... Éric-Louis Champagne n'a pas voulu commenter la situation. Le rapport d'enquête mené par une firme spécialisée en ressources humaines devrait être remis d'ici la fin du mois. Quant à la 50e édition du festival, elle se poursuit jusqu'au 26 août.
On s'amuse bien sur les trottoirs, on va aux marchands d'à côté et on a achète des olives noires. Il y a les rues, il y a le port, en bas c'est la Casbah. Les enfants, les macs, les patmas et la mer Méditerranée. Derrière chez moi, à El Bihar, il y a le marché noir. Les vieux sont assis en tailleur, les femmes qui vendent des porte-bonheur. Si tu voyais la marchandise, les bijoux et les friandises, les couteaux super acérés sur les tapis dans les paniers. Il y a du sang sur les balcons. Après pour enlever la peau, on gonfle avec la pompe à vélo. Alaya baba, alaya baba, asma, alaya baba, alaya baba, asma la derboka. La première fille que je l'ai perdue, la première fille que je l'ai aimée, la première fille que je l'ai caressée. En face il y avait la Casbah, les enfants, les macs, les patmas, les olivets, les oliviers, et la mer Méditerranée, et la mer Méditerranée. Hey!
Alger par Jean Leloup.
Jean Leloup qui avait participé au Festival de la chanson de Granby à l'époque. C'est donc sa participation, c'était avant d'être connu.
C'est pas un des gagnants non plus?
Oui, je pense que oui. Je me souviens. Je ne me souviens pas quelle année. Il faudrait que je fasse une recherche là-dessus. Serge,
oui.
De quoi on parle là, maintenant?
On s'en va dans les sous-marins.
Ah oui, OK, les sous-marins.
Mm-hmm. Oui, oui, oui. Alors, je vais vous lire un premier article, puis un deuxième en deuxième partie d'émission. Alors, c'est tiré de la revue « L'histoire, ça m'intéresse » de l'été 2018. Alors, il y a le 27 janvier 1968, la Minerve et ses 52 marins coulent à pic. Le Mistral, le vent, le Mistral souffle fort au large de Toulon le 27 janvier 1968. Mais la Minerve, un sous-marin de la Marine nationale, qui s'apprête à plonger dans la Méditerranée pour un exercice d'entraînement, en a vu d'autres. C'est 52 hommes d'équipage aussi. L'engin se rend sur sa zone d'exercice, au sud du cap Sissier, où les fonds tombent à 2000 mètres. Il a rendez-vous avec un avion de l'aéronaval, un Breguet Atlantique, pour un exercice de détection magnétique. À 7h19, l'avion indique à la Minerve que l'exercice est annulé en raison des conditions météo. À 7h55, le Breguet reçoit un dernier message du sous-marin. Puis, plus rien.
Silence radio.
Oui. Personne ne s'inquiète car le sous-marin a d'autres exercices à effectuer en plongée et ne doit entrer que le soir à 1h du matin au plus tard à Toulon. Mais il ne rentre jamais. À 2h15 du matin, les recherches sont lancées pour retrouver le bâtiment qui ne dispose que d'une réserve de 100 heures d'oxygène. Mais la Minerve reste introuvable. Le submersible de 800 tonnes a disparu corps et biens. Que s'est-il passé? Certains experts ont évoqué la thèse d'un abordage. Pas l'abordage de pirates, évidemment. Mm-hmm. Mais le Breguet Atlantique avait signalé la présence de deux navires de commerce sur la zone, d'une avarie de barre également, un défaut signalé sur d'autres sous-marins de ce modèle Daphné, mais l'explication la plus fréquemment avancée est celle d'un problème de snorkel, un tube utilisé... Snorkel, pardon. Mon allemand est rudimentaire. De snorkel, un tube utilisé pour naviguer en faible plongée. On dit pas snorkel aussi?
Ouais,
on entend ça dans
la prononciation exacte, mais on va dire qu'on a compris.
Bon, d'accord. clapet déficient aurait pu faire entrer l'eau dans le sous-marin et le faire couler en quelques minutes. Quand même, en quelques minutes, un sous-marin coule, tu sais. L'engin conçu pour descendre jusqu'à 525 mètres aurait ensuite implosé sous la force de la pression.
OK, ouais, parce que c'est des fonds très profonds, vous avez parlé tantôt.
Oui, 2000 mètres.
Mètres, c'est très profond.
Ouais. Cette thèse n'a jamais été confirmée et l'épave jamais retrouvée.
Oui, c'est tellement profond, j'imagine. Que...
Oui, pas plus que les 52 hommes d'équipage. Mais c'est sûr que si elle est à 2000 mètres et qu'il n'y a rien, un sous-marin ne peut pas aller à 2000 mètres. Un sous-marin de recherche ne peut pas aller à 2000 mètres. Ben, il
aujourd'hui,
pourra pas,
peut-être.
Oui.
Mais j'imagine que c'est une question de distance aussi. Quand on sait exactement le moment de l'accident, c'est peut-être plus facile à trouver. Mais si ça a pris une douzaine d'heures ou 24 heures avant qu'il se rende compte qu'il était perdu, il a pu faire un bon bout aussi.
Oui, oui. Mais je suis surpris qu'ils aient pas... Parce que si on regarde ce qu'ils ont fait pour le Titanic...
Ouais.
Le Titanic était quand même à, je pense, 1500 mètres de fond.
Ouais. Il y avait probablement une meilleure idée précise de l'endroit.
Ah non, ça a été long avant de trouver. Ouais. Ça a pris plusieurs années de recherche. Là. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont pu y aller dans une machine, dans un appareil. Là.
Ouais.
Ils ne sont pas allés avec une bombe.
Non, je me souviens, j'avais vu un reportage.
Ben ouais, ouais. Ensuite, savez-vous ce qu'on risque d'avoir en 2020?
En 2020.
2020.
Pas de rapport avec le sous-marin.
Non, non, non. Pas tout. Non, on s'en va dans autre chose, oui.
Okay.
C'est pour... il nous reste deux minutes, alors.
2020, il devrait avoir le train rapide léger à Montréal.
Non? Vous êtes loin. Ouais. Loin, très loin. Un mammouth pour 2020.
Ah.
Un mammouth.
Genre Jurassic Park. Là,
un mammouth.
Ou...
C'est ce qu'ont annoncé des généticiens de Harvard. Donc, on ne rit pas. Harvard,
non,
c'est
non,
Harvard.
Non, c'est sérieux. Bon. Oui, oui.
Leur méthode... ressusciter des gènes de mammouth prélevés sur des carcasses conservées dans la glace pour les intégrer à l'ADN d'un éléphant.
Et pareil comme Jurassic Park.
Ouais. La cellule souche serait ensuite implantée dans un utérus artificiel pour une gestation qui durera 22 mois.
Ça prend tout un utérus quand même.
Quelque chose, hein?
Oui, oui.
Et... Ah, voilà, c'est notre...
C'est le signal.
Ben
c'est
oui, c'est
la
ça.
Fin de la première partie. Donc, on vous revient dans quelques minutes après la pause et avec d'autres sujets qu'on vous a annoncés tantôt. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après la pause.
Vous écoutez les voix de service.
Here's Wonder Mike, Hank, and Master G, the Sugar Hill Gang.
Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man, Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out.
Well, I'm imp the dimp, the ladies pimp. The women fight for my delight, but I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside into the front, you do the freak spank or do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Trent's trio or with a serious joiner from sun to sun and from day to day, I sit down and write a brand new rhyme because they say that miracles never cease. I've created a devastating masterpiece. I'm gonna rock the mic so you can't resist. Everybody, I say it goes like this. While I was coming home late one dark afternoon, reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic and the turntable. This young reporter I did adore, so I rocked the vicious rhyme like I never did before. She said, damn, fly guy, I'm in love with you.
Casanova legend must have been true. I said, by the way, baby, what's your name? Said, I go by the name Lois Lane. And you can be my boyfriend, you surely can. Just let me quit my boyfriend called Superman. I said, he's a fairy, I do suppose. Flying through the air in pantyhose. He may be very sexy or even cute, but he looks like a sucker in a blue and red suit. I said, you need a man who's got finesse and his whole name across his chest. He may be able to fly all through the night, but can he rock a party till the early light? He can't satisfy you with his little worm, but I can bust you out with my super sperm. I go do it, I go do it, I go do it, do it. And I'm here, and I'm there. I'm Big Bang Hank, I'm everywhere. I just throw your hands up in the air and party harder like you just don't care. Let's do it. I don't stop, y'all. I take a talk, y'all. You don't stop. I go hotel, motel. And what you gonna do today? Get a fly girl, gonna get some smack and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. You say if your girl starts acting up, then you take a friend. I say skip, God, what can I say? I can't fit them all inside my OJ, so I just take half and bust them out. I give the rest to Master G so he can shock the house.
I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toes. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy air. You're rocking to the beat without a care. Who's the show? I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I'm singing on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it strong, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on.
Sur les ondes de Canal M, c'était un extrait de Rapper Delight par The Sugar Hill Gang.
Donc, méchant hasard, devinez de quoi je vais vous parler. En passant, Daniel Lachance, micro de Canal M. On est de retour avec les voix de service du 22 août 2018.
Oui, 22 août.
Oui. Et un article que j'ai trouvé encore dans la presse plus qui s'intitule « Le hip-hop souffle ses 45 bougies ». 45 ans déjà, quand même, hein, que ça fait partie du décor. Bien. Plus présent que jamais dans les festivals, le hip-hop a bonne presse et influence autant les arts visuels que la danse ou encore la mode. Coup d'œil sur les grandes lignes de ce courant musical né il y a 45 ans, jour pour jour, ça c'était en date de l'article du 11 août, donc déjà dépassé 45 ans, c'est dommage, mais bon. Donc, ce courant musical né il y a 45 ans, jour pour jour, dans un petit appartement du Bronx, qui est un quartier de New York. Alors que le discours règne encore sur New York et que le Bronx s'enflamme, rongé par le chômage, la violence et la drogue, trois hommes s'apprêtent à jeter les bases du hip-hop. DJ d'origine jamaïcaine, Kool Herc refuse de jouer du disco, mais propose plutôt le meilleur du soul et du funk. Il organise une fête le 11 août 1973 qui changera le cours de l'histoire de la musique. Avec ses deux platines de mixage, ici on dirait des tables tournantes, mais on comprend ce qu'on parle. Ouais. Mm-hmm. Donc avec ses deux platines de mixage, il prolonge les parties rythmiques instrumentales, gardant uniquement la basse et la batterie des morceaux, inventant du même coup le break. Afrika Bambaataa a quant à lui fédéré le mouvement baptisé hip-hop en organisant de grosses soirées, alors que Grandmaster Flash a fait exploser le tout en étant rapidement reconnu à travers le monde grâce à sa technique et à sa maîtrise jamais vue des platines. C'est là qu'on a commencé justement à faire du scratch. Là. On utilisait des platines, on faisait tourner le truc à l'envers. Bon. Le break a fait rapidement danser les B-Boys, inspire les graffiteurs, mais surtout les MC, les maîtres de cérémonie, qui créent des rimes sur la musique et accompagnent des DJ, d'abord pour animer les soirées, puis pour dépeindre la réalité des jeunes noirs des ghettos. DJ Hollywood est considéré par de nombreux amateurs du genre comme le premier rappeur connu, alors que, selon d'autres, c'est plutôt le groupe composé de Grandmaster Flash et de Furious Five qui aurait ouvert la voie. Le hip-hop va sortir des sous-sols des appartements du Bronx grâce à la célèbre coupure de courant qui a plongé New York dans le noir en 1977.
Mm-hmm.
Quand même, ça, on joue dans vos plates-bandes, on est dans l'histoire ici, parce que tout le monde se souvient de cette panne-là qui avait été... Écoutez bien ça, ça m'avait un peu...
Il y aurait même eu après ça, 9 mois après, des surprises.
Apparemment, dans les familles, un genre d'explosion démographique.
Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là.
Dans le noir, on ne le saura jamais.
On peut juste rester discret, mais c'est ça.
Donc, suite à la panne qui a plongé New York dans le noir en 1977, plus de 1600 boutiques seront saccagées et une révolution culturelle majeure verra le jour à la suite de l'événement. Ces pillages ont en effet permis d'équiper de très nombreux nouveaux DJ et ont fait exploser le nombre de MC. Imaginez, pas un bel exemple à donner, là, mais l'explosion du rap aura quelque chose à voir avec le fait que là, les tables tournantes étaient plus facilement accessibles parce que matériel volé se vendait moins cher. Pas drôle. Alors que les Furious Five sont en tournée mondiale, tout le monde se dispute leur place. Mais en 1979, c'est The Sugar Hill Gang qui remporte le gros lot avec son célèbre Rapper's Delight, la chanson qu'on a entendue tantôt, qui tourne sur toutes les radios. Les membres de ce groupe sont considérés par le grand public comme les premières vedettes du rap, mais sont détestés par les puristes qui les accusent d'avoir volé les rimes du MC Grandmaster Caz. C'est à cette époque que le hip-hop fait son entrée à Manhattan par l'entremise des arts visuels, juste avant qu'Afrika Bambaataa ne recommence à mixer dans des clubs du centre-ville. Plus besoin d'aller dans le Bronx pour entendre ce nouveau genre de musique. Avec la sortie de la mythique chanson « The Message » de Grandmaster Flash and the Furious Five, un message social émerge du hip-hop. Au milieu des années 80, Run-DMC secoue la planète avec un nouveau style, loin des costumes jusqu'ici portés par ses confrères. Il se présente sur scène et dans ses clips comme il est habillé dans la rue et ne rappe que sur un simple beat. C'est à lui que l'on doit Mes Adidas en français, mais je ne la connais pas celle-là, désolé. Titre qui marquera également la mode du hip-hop. C'est aussi à cette époque que la carrière de LL Cool J va exploser. Pendant ce temps, le gangster rap déferle sur la côte ouest avec Dr. Dre, Lonzo William et Cypress Hill. En pleine dictature de la techno, les rappeurs comme Ice-T veulent devenir des vedettes et faire connaître le hip-hop de Los Angeles. Alors que les gangs de rue y font la loi, les textes des rappeurs de la côte ouest parlent surtout de cette réalité. Le festival Under Pressure à Montréal, que je connais pas, qui fête cette année ses 23 ans, bat son plein jusqu'à, on disait demain soir, mais là, cet article-là date du 11 août, donc c'est fini, je suis désolé. Fondé en 1996 par les graffiteurs Sterling Downey, aussi connu sous le nom de SEAZ, Seize, j'imagine, et Flo. C'est le plus ancien festival célébrant la culture hip-hop à l'image des block parties nés dans les années 70 à New York. Graffiteurs, DJ, MC et danseurs urbains s'y donnent rendez-vous. En passant, l'article finit en disant pour en savoir plus sur l'histoire du hip-hop, il est possible de regarder sur Netflix Hip Hop Evolution, série documentaire en 4 épisodes très complète sur la question. Est-ce que vous savez les 3 lettres rap, R-A-P, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appris ça juste dernièrement, j'entendais ça depuis des années, rap, ok?
Mais... Oh non, aucune idée.
Maurice?
Ça doit commencer par Rhythm.
On est sur la bonne voie. Rap, ça veut dire tout simplement rhythm and poetry. Rythme et poésie.
Ah!
Ça a bien de l'allure.
Mais poésie.
Ben, parce que dans le fond, c'est beaucoup de textes. Donc, c'est plus des textes poétiques mis en musique. La musique n'est pas trop très élaborée. C'est plus le texte qui prend la place. Donc, rhythm, c'est ça qui prend le plus de place côté musical. And poetry, c'est ça que veut dire. Rap. Voilà. On est de retour. Serge, vous allez nous parler de...
Little Rock 1957, Little Rock. Ça vous dit toujours
le nom, pas non, non, j'ai pas eu le temps de faire une recherche. Là, mais...
Alors, c'est le titre d'un livre qui a été publié récemment. Et le livre, c'est Little Rock 1957, de l'auteur C.T. Snegaroff, et c'est aux éditions Talendier. Alors, M. Snegaroff est spécialiste des États-Unis. L'auteur, il est allé sur place pour enquêter sur cet épisode majeur de l'histoire de la lutte pour l'égalité des droits. Il livre un récit captivant, riche en archivage et témoignages inédits. On dit qu'une photo, une image vaut mille mots. Regardez cette image.
Mm-hmm.
Vous voyez, hein? Une demoiselle noire, une jeune femme noire, une lycéenne qui est entourée d'une foule blanche, qui est sympathique.
Quand on parle d'intimidation, là, ouais. Ça, c'est une
image. Puis regardez, le seul monsieur qui sourit, forte. Il est à droite complètement. Mm-hmm. Et c'est un sourire, c'est pas un sourire, c'est un sourire qui est content de ce qui arrive à la demoiselle noire. Ouais. Maurice, regardez vous aussi, voyez-vous, hein? Une belle image.
Horrible.
Ouais. Alors, donc, l'Amérique raciste harcèle une lycéenne. L'article est d'Élodie Barakat. Le 4 septembre 1957, dans l'Arkansas, une jeune noire fait sa rentrée dans un lycée réservé aux Blancs, en 1957.
Mm-hmm.
Une foule haineuse l'accueille sous un flot d'insultes. Derrière ses lunettes de soleil, les yeux d'Elizabeth Eggford, 15 ans, sont pleins de larmes. « Aucune pute nègre n'entrera dans notre école », hurle un badaud. Gentil. « Lâchez-la », crie un autre. Aïe aïe. Les genoux de l'adolescente commencent à flancher. Ce mercredi 4 septembre 1957, Elizabeth Eggford fait sa rentrée au Central High, le lycée réservé aux Blancs de Little Rock, la capitale de l'Arkansas, dans le sud des États-Unis. Elle fait partie des 9 lycéens triés sur le volet pour être les premiers Noirs scolarisés dans cet établissement. Depuis le 19e siècle, la ségrégation scolaire est pratiquée dans les États du Sud. Mais le 17 mai 1954, donc 3 ans avant, un arrêt de la Cour suprême des États-Unis l'a jugé inconstitutionnelle. En 54, puis là on est en 57.
Mm-hmm.
Les 9 lycéens noirs ont décidé de se rendre ensemble au lycée. On est plus fort en groupe que seul. Mais Elizabeth, n'ayant pas le téléphone, elle n'est pas au courant de l'initiative. Okay. Alors, la pauvre arrive seule. Il est presque 8 heures lorsque la jeune fille tente de se frayer un passage dans la foule. Face à elle, il y a des soldats de la garde nationale pour lui barrer la route.
Pas pour la protéger.
Pas pour la protéger. Pour lui barrer
c'est
la
incroyable,
route.
Incroyable. Hein? Ouais. Pas dans...
Ils ont été envoyés par le gouverneur de l'Arkansas lui-même, Orval Faubus, opposé à la décision de la Cour suprême. Alors, tout est réuni. Hein. Les manifestants prennent à partie Elizabeth. Juste derrière elle, une jeune blanche du même âge, on l'a vu sur la photo, mm-hmm. là, la bouche grande ouverte, là, je vous la remontre, voyez-vous.
Ouais.
Elle
a l'air agressive un peu.
Alors, son nom est Hazel Bryan, cheveux courts et noirs, ses gosilles, rentre en Afrique. C'est le moment immortalisé par Will Counts, photographe pour l'Arkansas Democrat Gazette. Hazel Bryan, comme d'autres manifestants, fait partie de ce qu'on appelle, de ce que l'on appelle péjorativement, la communauté white trash, littéralement déchets blancs.
Mm-hmm.
L'expression désigne les blancs pauvres du sud du pays, dont certains voient la fin de la ségrégation comme une menace. L'idée que les Noirs aient accès aux mêmes études est pour eux la certitude qu'ils seront désormais tout en bas de l'échelle sociale, explique l'historien. Snegaroff, dans ce livre, justement, Little Rock 1957. Elizabeth, comme les 8 autres lycéens noirs, est forcée de faire demi-tour. 3 semaines plus tard, le 25 septembre 1957, le président des États-Unis de l'époque, Dwight Eisenhower, envoie l'armée américaine sur place pour faire appliquer la loi. À 9h22, les 9 de Little Rock pénètrent enfin pour la première fois dans leur lycée, escorté par 22 soldats.
Il me semble que ça ne va pas être très encourageant parce que l'armée va se retirer à un moment donné.
Oui, puis ben,
il ne restera pas là pendant toute la session.
Je crois avoir vu, moi, dans un reportage, que l'armée est restée un certain temps. Il y a des soldats qui sont restés pour les accompagner. Je ne sais pas si c'est toute l'année, mais
incroyable.
En tout cas. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Insultes, crachats, violences, humiliations. Jour après jour, ils subissent des agressions. Élisabeth endure ce supplice pour sa communauté. Il fallait faire le choix, chaque jour, de retourner dans cet enfer sur terre, confiera-t-elle 60 ans plus tard. Après Central High, Élisabeth entre à l'université, puis travaille pour l'armée. En 1964, la loi déclarant illégale toute discrimination est votée. C'est la fin officielle de la ségrégation dans le pays. Élisabeth et ses camarades furent parmi les pionniers de cette évolution historique. En 1998, les Neuf de Little Rock ont reçu la médaille d'or du Congrès en reconnaissance de leur héroïsme et de la peine endurée au nom des droits civiques lors de leur entrée au Central High.
Mais ils ne sont même pas les seuls. Ça, c'est un événement particulier là, mais à cette époque-là.
Ah, il y en a eu plein comme ça. Écoute, et dès que tu brisais le tabou, là, tu te faisais battre. Donc, on se regarde ce que faisait le Ku Klux Klan.
Oui, ouais, c'est incroyable. Ils sont encore. Je ne suis pas sûr qu'ils sont encore complètement disparus aujourd'hui.
Ah, non, ils existent encore.
Donc, un sujet un peu moins...
Oui. On va dans le sous-marin de Napoléon.
OK, on revient au sous-marin.
Oui. Ah, c'est l'éditorial de la revue. Paris, le 13 juin 1800. Un drôle d'Américain attire les regards des badauds sur les quais de la Seine. Robert Fulton teste son Nautilus, un sous-marin porte-torpille. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Lors de la guerre de l'indépendance américaine, qui a lieu de 1775 à 1783, son compatriote David Bushnell avait mis au point un navire submersible à une place. Le projet de Fulton est plus abouti et surtout il soulève l'enthousiasme du premier consul Bonaparte qui cherche un moyen d'envoyer par le fond les bâtiments de la perfide Albion, l'Angleterre. Mm-hmm. Parce qu'il y a juste un canal mm-hmm. qui sépare l'Angleterre de la France. Voici l'engin, long de 6,48 mètres, il peut accueillir 3 personnes très musclées. Parce que pour le propulser, il faut manier une hélice à la main. Et pour le faire plonger, il faut actionner une pompe permettant d'aspirer l'eau de mer dans un réservoir. Tout se faisait manuellement. Hein? Ce 13 juin 1800, le Nautilus disparaît 6 minutes sous l'eau avant de remonter à la surface.
Donc c'est un essai qui est concluant.
Un essai concluant, oui. Épatant. On refait des essais au Havre, à Cherbourg et à Brest. Cocorico, le premier sous-marin militaire, sera français. Hop, 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 au-delà, pas si vite. Se cacher sous la mer pour attaquer des braves marins, ce n'est pas un peu déloyal, ça? On se posait la question. Mm-hmm. C'est ce que pense le chevaleresque Caffarelli, préfet maritime de Brest. Cette manière de faire la guerre porte en elle une telle réprobation que les personnes qui l'auraient entreprise et qui auraient échoué seraient perdues. « Ce n'est pas là la mort des militaires », persifle-t-il. En octobre 1801, le projet est enterré. L'honneur tricolore est sauf. Les Allemands, eux, auront moins de scrupules. Un siècle plus tard, leur U-boat règne sur les mers durant la Première Guerre mondiale, ce qui amènera à l'entrée en guerre des États-Unis parce qu'on coula le navire Lusitania, qui est un navire de transport touristique, mais apparemment qu'il y avait des missions.
Oui, je pense qu'il transportait des armes, en tout cas, une rumeur. Mm-hmm.
La romancière Alexandra Rossi utilise cette anecdote bien réelle comme trame de son dernier roman, Le sous-marin de Bonaparte, paru en mai dernier aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Une aventure passionnante à glisser dans votre sac de plage, là, l'été est un peu fini, avec les 12 autres livres commandés par sa maîtresse. Alors, c'est cela. Voilà, c'était la petite histoire du sous-marin de Napoléon.
Donc, Napoléon, ce serait vraiment un innovateur.
Oui. Et il y avait, par contre, De Vinci aussi avait...
Pensé
également
les
hélicoptères, les avions. Les chars d'attaque, là.
Chars d'attaque, les avions aussi, ouais, il a dessiné plein de trucs. Mmh. Mmh. Mmh.
Puis évidemment, et aussi dans la revue, on a encore un petit peu de temps.
Bah oui. Oui.
Alors, les inégalités détruisent les sociétés. Saviez-vous ça?
Ah, c'est une nouvelle, ça. Mmh. Je pensais que c'est ça qui construisait les sociétés. Ouais,
ouais. C'est l'archéologie qui le dit. Entre 9000 avant Jésus-Christ et 1500, les sociétés d'Eurasie étaient plus inégalitaires que celles d'Amérique.
OK.
D'après une étude publiée dans Nature, la sédentarisation a permis l'accumulation de bétail chez certains fermiers eurasiens, créant de grands écarts de richesse. Alors cela se mesure à la différence de taille entre les habitations. Être très riche, c'est bien, cette disparité a entravé la stabilité de ces sociétés à long terme, précisent les auteurs qui soulignent que les États-Unis ont actuellement un des plus hauts niveaux d'inégalité de l'histoire.
C'est pas tellement surprenant, ça, par exemple. Parce que la fortune des plus riches, les plus riches sont moins nombreux, mais leur fortune est plus grande.
Et savez-vous que chez les Britanniques, il y a une fascination pour les gâteaux de mariage, hein?
Oui, vous avez parlé de ça tantôt.
Oui. Alors, ça s'appelle un précieux gâteau de mariage. Alors, pour leur noce, le 19 mai dernier, le prince Harry et Meghan, la jeune américaine, ont eu droit à un wedding cake composé de fleurs de sirop et citron confit. Miam, miam. Pour les Anglais, c'est tout sauf un détail. Il existe dans le pays une vraie passion pour le gâteau de mariage royal ou princier.
OK, donc c'est un gâteau qui est pas, il devrait
non,
pas être comme
non,
les autres.
Non, non, non. Sachez que depuis 1840, des fans conservent des parts du cake de l'union entre la reine Victoria et Albert.
Ouais.
Je pense pas que ce soit mangeable. Ça doit être à moins de
à vos risques.
À vos risques et périls, oui, oui. Depuis cette époque, on crée même une boîte en fer pour garder ses précieux restes.
Donc c'est des reliques, ça devient des reliques.
Oui. Une relique qui peut valoir très cher.
Oui, je suppose.
En 1998, une part du gâteau de mariage entre Wallis Simpson et Édouard, qui a été roi Édouard VIII durant quelques mois, pour divorcer et épouser Wallis Simpson deux fois divorcé, et il est devenu à ce moment-là duc de Windsor. Ce morceau a été vendu, auriez-vous un prix? Risqueriez-vous un prix en euros?
En euros? Non, en livres, oui. Non, aucune idée. Aucune idée.
24 000 euros.
C'est quand même beaucoup, ça.
Et là, l'euro est actuellement 50 % de plus que le dollar canadien.
50 000 $
Oui, oui, ouais, à peu près.
Ça fait cher le kilo, ça.
Ouais. Alors, ce morceau datait donc de 1937. Alors, voilà pourquoi ces desserts sont toujours composés de fruits confits. Ça se conserve mieux.
Ça se conserve, ben oui.
Ben, le gâteau fruit, d'ailleurs, on peut mettre ça un an. Oui, c'est ça, oui. Ben alors, au bout de...
Je vois avoir quand même des couleurs qui n'étaient pas là au départ.
Oui. Alors, cerise sur le gâteau, c'est bien dit.
Ah!
Le 23 juin prochain aura lieu à Beverly Hills une vente aux enchères du cake de Charles et Diana.
OK,
ils
donc
se sont mariés en 80 et quelques.
En plusieurs pièces, j'imagine, pas le morceau lui-même.
Ouais. Non, okay, non.
Okay. Et j'ai trouvé quelque chose tantôt dans le 24 heures. C'est le 24 heures? Oui, dans le 24 heures. Vous savez que c'est pas une nouvelle pour personne. La grande chanteuse Aretha Franklin est décédée la semaine dernière. Mm-hmm. Et Madonna aurait été critiquée par ses fans parce qu'elle lui a rendu un hommage lors des MTV Awards, les MTV Video Music Awards qui avaient lieu à New York. Madonna est montée sur scène pour rendre hommage à Aretha Franklin, décédée d'un cancer du pancréas. Seulement, son hommage n'a pas été du goût de tout le monde, car la chanteuse a utilisé la majeure partie de ses 10 minutes pour parler d'elle, focalisant principalement sur la façon dont l'icône de la soul a influencé sa vie. Ses fans lui reprochent d'avoir trop parlé d'elle-même. Mais en même temps, je comprends qu'une personne comme Aretha Franklin, il y a tellement de choses qui ont été dites sur sa vie, sur son influence en général depuis une semaine, que j'imagine quand on veut lui rendre hommage, c'est un peu normal qu'on dise aussi de quoi, de quelle façon elle nous a influencé. Mm-hmm. Bref, peut-être mm-hmm. les fans sont un peu susceptibles. Ouais. J'ai pas écouté, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit.
Dans la... Toujours dans ma belle revue que j'adore, Historia de l'été, l'avez-vous comme au Moyen-Âge, j'ai parlé dernière semaine.
Oui, ouais, les savons, comment fabriquer les savons.
Oui, c'est ça, comment fabriquer les savons. Il y a un petit article que j'ai pas lu, que j'avais pas eu le temps de lire l'autre fois, ça s'appelle « Astiquer vos chicots ».
OK, en français.
Oui. Notre brosse à dents actuelle ne sera inventée qu'au 15e siècle, mais ce n'est pas une raison. Nettoyez-vous les dents avec du tissu imbibé de dentifrice.
Ah oui.
Vers 1257, le médecin Aldebrandin de Sienne rappelle que le frottage des dents les tient en beauty, pour beauté, et l'or fait maintes maladies esquivées. Un traité de médecine en latin, le Catholica Magistris Salerni, propose même une recette de dentifrice, de la poudre de marbre, de la cannelle, du costus ou du bois de cassis ou d'amone. Le texte assure qu'ainsi les dents se renforcent et deviennent blanches, la bouche sentira bon.
Ah, ben on va tester ça, puis on ouais. vous en redonne des nouvelles.
Oui.
Et c'est ce qui met fin à l'émission Les Voix de service du mercredi le 22 août 2018. Merci à vous, Serge Bradet. Mm-hmm. Merci à Maurice Bolduc.
Et merci à vous, Daniel.
Merci beaucoup. Et on devrait retrouver Isabelle Falardeau mercredi prochain. Et tantôt, je vous invite à rester à l'écoute, car c'est François Brodeur qui prend le micro pour l'émission Le quotidien des quotidiens. À la semaine prochaine.
Bye.